Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. Pour ce 20e épisode, nous recevons Manon Apiti-Brunet. Manon est une sportive de haut niveau. Fin juillet, elle a obtenu la médaille de bronze au tournoi de sabre et la médaille d'argent par équipe au JO de Tokyo. À seulement 25 ans, elle est la première française médaillée dans ce sport si exigeant. J'ai donc face à moi aujourd'hui une médaillée olympique, double championne de France, championne du monde par équipe, qui depuis l'âge de 8 ans s'entraîne pour atteindre le plus haut niveau de sa discipline. Elle est devenue en quelques années la meilleure sabreuse française. Et je suis certaine que vous vous doutez de la raison pour laquelle nous rêvions de la rencontrer. Manon est une femme exigeante, déterminée, qui mène à la fois et brillamment une carrière sportive, ses études et sa vie personnelle. Alors venez découvrir Manon le temps d'un instant juillet. Donc Manon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors j'ai présenté ton palmarès, j'espère sans erreur, tout va bien. Et encore bravo et surtout merci d'avoir fait briller la France aux derniers Jeux Olympiques. Nous avions tellement besoin de retrouver l'intensité et la liesse des événements sportifs, c'était magnifique. Mais pour être sincère, en fait j'avais envie de commencer notre discussion sur un sujet qui m'a beaucoup touchée quand j'ai vu tes interviews, parce qu'on ne se connaissait pas et donc j'ai regardé les interviews sur YouTube. J'ai vu tes larmes en fait après ton échec en demi-finale et la force ensuite avec laquelle tu as gagné cette médaille de bronze. Et j'ai trouvé ça incroyable et très inspirant. Alors Manon, comment on fait pour accepter une défaite, la dépasser et en moins de quelques heures redevenir combative et pour le coup victorieuse?
Alors on ne fait pas ça toute seule. Non, c'est vrai qu'après la demi-finale, c'était vraiment un moment très très difficile. En fait, ça m'a replongée tout simplement dans l'échec de Rio 5 ans avant, aux Jeux Olympiques, où j'ai terminé ensuite 4e. Et je me suis dit, je vais recommencer, je vais reperdre et je vais refinir au pied du podium. Alors que j'étais dans une très bonne journée cette fois encore. Et du coup, j'ai pleuré. Je ne savais pas qu'on m'avait vue,
mais j'ai pleuré. Ça a été filmé.
Ça a été filmé. Pourtant, j'ai traversé le coin média en baissant la tête pour pas qu'on me voie. Mais du coup, ouais, je n'ai pas fait ça toute seule. D'abord... J'ai mon coach qui m'a dit que l'histoire n'allait pas se répéter. Après, ma coéquipière Charlotte qui est venue et qui a essayé de me rebooster, mais j'arrivais limite plus à me tenir debout tellement je pleurais. Mes autres coéquipières sont venues me soutenir. Tout le staff était là, mais le seul qui a réussi à me remonter le moral et qui a fait en sorte que je reprenne du plaisir sur la piste, c'est mon mari, c'est Bolad Apiti, qui n'était pas mon mari à l'époque d'ailleurs. Et j'avais jeté mon téléphone en plus à ce moment-là dans mon sac pour plus avoir de message. Que je me suis dit, chaque message que je vais voir, je vais pleurer encore. Et j'arrivais plus à m'arrêter. Et grâce à des coéquipiers, Charlotte et Enzo Lefort de l'équipe de Fleuret, il a réussi à m'avoir au téléphone. Il m'a parlé pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 bonnes minutes, il m'a juste rappelé que c'était ma passion, l'escrime. Et même si je perdais ce match pour la médaille de bronze, c'était pas grave, il fallait juste que je profite de ces Jeux Olympiques. Parce que la veille ou 5 ans plus tôt, j'aurais signé pour une médaille de bronze. Et je le disais moi-même, n'importe quelle médaille, mais je la prendrais. On peut tellement vite perdre, comme mes coéquipiers l'ont fait, qu'on se rend compte qu'une médaille, n'importe laquelle c'est quand même très important. Donc il m'a juste dit, bats-toi et amuse-toi et tu retrouveras, et quoi qu'il arrive, on verra bien quoi.
Et en plus déjà exceptionnel, c'est-à-dire d'aller au JO et de remporter une médaille finalement.
Voilà, c'est déjà on se rend pas compte, mais c'est du boulot.
Mais oui, c'est du boulot et puis certainement que du coup, la tristesse est grande quand, parce que même si tu dis n'importe quelle médaille, tu vises l'or forcément, comme n'importe quelle compétitrice, tu vises l'or et donc forcément la déception devait être grande. Mais du coup, ça m'a vachement intéressé ça, parce que évidemment, nous on n'est pas sportifs de haut niveau, mais dans la vie on a tous à un moment donné des échecs ou des choses sur lesquels on mise beaucoup, pour lesquels on a beaucoup travaillé, qui ne se passent pas comme prévu. Et c'est toujours super difficile de se relever. Donc du coup, voilà, ta technique, c'est de dire, d'être bien entouré, d'avoir les gens autour de toi qui te rappellent en fait la chance que tu as.
Bon, après, ce qui est un peu habituel en escrime, c'est qu'on passe un peu notre vie à perdre. Et il n'y en a quand même qu'un seul qui gagne la compétition, qui gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la journée. Mais là, la particularité avec les Jeux Olympiques, c'est que quand on perd en demi-finale, on a encore un match à faire, alors que normalement, on finit 3e directement. Ah donc oui. Là, le retour à se dire, bon, il faut que je recommence pour aller chercher une médaille, ça, c'est vraiment pas facile.
Bah après, c'est des années de travail aussi avec des préparateurs mentaux à réussir à se remobiliser. Mais surtout, oui, pas obligé que même si on rate, eh ben, y a des objectifs derrière à aller chercher. Et la médaille de bronze en faisait partie.
Et du coup, tu t'es remobilisé et t'as gagné ce coup-là.
Oui, après,
l'histoire ne s'est pas reproduite.
C'est ça. Après, je sais que j'ai demandé à mon entraîneur de m'échauffer. Et en fait, il fallait que je m'occupe et que je ne pense pas à ce qui pouvait se passer. Et j'ai repris tout simplement un rituel quand je suis montée sur la piste. J'ai regardé ce que j'avais fait, surtout mes matchs précédents. J'ai regardé les anneaux à côté de la piste et je me suis dit, c'est quand même les Jeux Olympiques, quoi. Ouais. Et j'ai souri sous mon masque. Et voilà. Et c'était parti.
Super. Et du coup, donc j'ai lu dans les articles que tu avais commencé dès l'âge de 8 ans. Et donc, c'est assez original parce que finalement, ce n'est pas un sport qui est très connu, très médiatique, le sable, l'escrime. Donc, comment, à 8 ans, une petite fille de 8 ans, elle se dit, je vais faire ça?
Alors, je viens d'une famille très sportive, donc forcément, le sport, c'était un peu la base. J'ai jamais fait de musique, mais du sport, j'en ai fait toute ma vie. J'avais fait du taekwondo et de la danse, mais les deux ambiances ou les sports ne me plaisaient pas forcément. Et une copine m'a dit, bah, moi, je fais de l'escrime, si tu veux, viens essayer. Mon père voulait me mettre sur un sport co. Il s'est dit, bon, bah, peut-être le sport individuel, ça ne lui plaît pas. Et en fait, quand j'ai mis la tenue, j'avais un peu l'impression d'être déguisée et d'avoir mis le masque. Je me suis dit, oh, je peux être un super-héros, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça, ouais.
En plus, j'étais très timide à l'époque, donc vraiment d'avoir le masque, j'avais l'impression d'être protégée.
Et, ouais, comme et de jouer un personnage, enfin, de dire, voilà, comme dans un film, quoi. Je voilà, deviens un super-héros.
Et je m'amusais. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec l'escrime, et encore aujourd'hui, c'est qu'on a tout le temps des choses à apprendre et il y a toujours des gens différents en face de nous. Donc c'est tout le temps comme si c'était tout le temps différent, quoi.
Oui, parce que c'est vrai que du coup c'est pas du tout un sport collectif, donc tu te bats seul face à un ennemi seul.
Un peu collectif quand même parce qu'il y a quand même les épreuves par équipe.
Ouais,
et c'est ça qui est beau. Hein, c'est parce un sport que tu vis les deux.
Parce que du coup au JO Tokyo, j'ai vu donc t'as eu du coup une médaille d'argent, c'est ça?
Par équipe. Ouais.
Par équipe. Et donc comment ça se passe du coup? C'est un tournoi où vous êtes plusieurs avec plusieurs adversaires. Comment ça se passe par équipe?
C'est ça. Alors en fait sur les compétitions par équipe, on est 4 contre 4. D'accord. Enfin, on est 4 inscrites. Il y en a, en fait, c'est les trois titulaires, en gros, tirent contre les 3 autres titulaires. Et s'il y a une blessure ou s'il y a, j'en sais rien, ou s'il y a une qui devient un peu moins bonne, on peut faire un changement dans le match. Aux Jeux Olympiques, c'est un changement dans la journée. Donc, si on change au premier tour, et ben, l'autre fille ne peut plus rentrer. Et si la fille ne rentre pas et qu'on fait médaille, elle n'a pas de médaille. Par exemple, les Russes n'ont pas fait rentrer leur remplaçante, du coup, elle n'a pas une médaille.
Ah, ok.
Donc ça, c'est un peu la petite histoire des Jeux Olympiques qui rend les Jeux Olympiques encore plus durs ou plus beaux, je ne sais pas.
Oui, disons que d'avoir la médaille, c'est encore plus exceptionnel.
Voilà. Mais en gros, c'est 3 filles qui rencontrent 3 filles sur des relais en 5 touches et ça va au final, ça va en 45.
Ok. Et en fait, même si c'est un combat individuel, finalement, c'est l'équipe qui gagne parce que...
C'est ça. Mais en gros, par exemple, je peux mettre 5... Je peux gagner mon premier relais 5-1 et la deuxième fille, tant qu'on n'arrive pas à 10, le match continue.
D'accord.
Donc il peut y avoir, la France peut mener 5-1 par exemple contre la Russie, et il peut y avoir au final 10-5 pour la Russie après, si la Française n'arrive pas à marquer de points, quoi. C'est ça jusqu'à la fin.
La Russie c'est les meilleurs en fait, mon Dieu, bah, c'est ça, parce que tu parles souvent de la Russie.
Bah,
donc,
on
voilà.
a pris les Russes
c'est
en
les,
finale
c'est
des
ennemis,
Jeux,
quoi.
Donc
ouais,
voilà,
ça,
elles ont fait 1-2 en plus encore une fois en individuel. Ouais. C'est dur à dire, mais oui, les Russes sont pour l'instant les meilleurs.
Ouais, c'est ça. Et du coup, là, j'ai lu que tu avais été la première Française finalement à être médaillée sur ce sport, médaillée olympique.
C'est ça, ouais. Je suis la première à ramener une médaille au sabre d'âme.
Voilà, en France.
En France, ouais.
Bravo.
Ah, c'était
bravo.
Cool.
Bah ouais, c'est sûr. Et du coup, alors, c'est ton activité à temps plein. Aujourd'hui, t'es sportive de haut niveau et t'en vis?
C'est ça, ouais. J'en vis depuis les Jeux de Rio. Un peu après les Jeux de Rio, j'ai commencé à avoir des sponsors. Le premier, c'était l'armée de champions. Donc, grâce à eux, j'ai pu commencer à dire, bon, bah voilà, je peux vivre de mon sport et continuer à faire des études, mais pour un futur et pas pour dire, faut que j'aille travailler pour.
C'est ça, ouais.
Pour m'entraîner.
Ce qui est différent sur ton quotidien, du coup.
C'est ça. Bah, si je peux vivre tout simplement dans ma vie de tous les jours, quoi. Je peux avoir un appartement, m'acheter à manger, ça, c'est bête, mais et me payer aussi des études avec d'autres sponsors, mais. Ouais. Ça se rajoute au fur et à mesure, ouais.
Parce que du coup, ouais, aujourd'hui, là, tu fais des études, mais finalement, pour un futur, c'est-à-dire pour quand tu seras en retraite sportive,
Exactement.
En fait. Mais aujourd'hui, ton travail, c'est vraiment d'être sportive.
C'est ça. Mon travail, c'est d'être une escrimeuse.
Une escrimeuse. C'est ça sur ton CV. Alors, sympa, du coup, comment ça se passe, une journée classique d'escrimeuse?
En fait, c'est vraiment tout le temps différent. En gros, je m'entraîne 5 jours par semaine et les entraînements peuvent varier. Avant, je m'entraînais à l'INSEP à Paris, donc c'était 2 entraînements par jour à peu près qui duraient 2-3 heures en fonction. Souvent, le matin, c'était travail individuel avec l'entraîneur et préparation physique. L'après-midi, c'était des assos. Aujourd'hui, j'ai changé de structure. Je suis à l'Académie Christian Bauer à Orléans. Du coup, déménagement, tout ça, changement de vie. Et les entraînements sont beaucoup plus longs. Maintenant, ça va être soit un entraînement dans la journée qui va durer de 9 à 14-15 heures, où on va faire tout ce qu'on peut faire, de l'échauffement, la préparation physique, le travail technique, que ce soit le travail de jambes ou le travail technique avec un adversaire, la leçon individuelle avec l'entraîneur et des assos. Où on va faire deux entraînements dans la journée, où le matin on va faire beaucoup de choses et l'après-midi on va juste faire des assos, où on va faire que des matchs comptés. Mais ça peut aller jusqu'à 8 heures d'entraînement dans la journée.
D'accord, et du coup tu fais vraiment que ça comme sport ou tu as d'autres sports, on va dire, je ne sais pas, d'entraînement ou d'autres sports que tu fais pour compléter
L'entraîneur peut nous faire faire d'autres sports, mais ça compte dans la préparation physique.
D'accord.
Ou par exemple, il peut nous emmener faire, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, hein, admettons de l'escalade ou de l'acrobranche, pour nous faire nous dépasser. Par exemple, si certains ont peur ou une peur, et ben, travailler sur la préparation mentale, nous dépasser. Et tout ça, ça se travaille. Mais par exemple, au début d'année, on faisait beaucoup de courses. On allait dans un endroit à Orléans où on pouvait courir. Et après avoir fait le footing, il nous faisait faire un peu de volet pour que ce soit un peu ludique, qu'on rigole, mais qu'on continue à faire du sport avant de rentrer et d'attaquer le travail technique.
D'accord, ok. Alors le travail technique, c'est quoi ? C'est, j'imagine pas du tout, c'est quoi ? C'est derrière un bureau où genre, vous pouvez analyser des possibilités
Non, il y a ça, mais non, le travail technique de base, en fait, il y a deux façons de travailler techniquement. Il y a déjà le travail de jambes, où on est tous alignés devant un miroir.
D'accord.
On se regarde tous et l'entraîneur nous donne des exercices.
Un peu comme de la danse, quoi.
Exactement. Ouais. Voilà, on travaille les gammes. Okay. Après, il y a le travail technique, comme je disais, juste face à l'entraîneur, où il nous donne, ça s'appelle nous donner la leçon. En fait, il nous fait travailler les gestes, après les moments où on a le droit de faire les choses. On apprend l'escrime en gros.
Et du coup, l'esthétique, ça compte, là ? C'est-à-dire qu'il y a une façon de se positionner pour faire un petit peu justement comme les danseurs, comme un spectacle
ou... Le but n'est pas d'être beau, mais le but c'est d'être efficace, bouger vite et être fluide. Voilà.
D'accord, ouais, donc il n'y a pas d'idée comme il peut y avoir sur, je vais dire une bêtise, mais sur le patinage artistique par exemple où il y a une idée de danse et tout ça. Non, il n'y a pas. Parce que je trouve que c'est très beau un match d'escrime à regarder, mais finalement c'est pas forcément le but.
Non, bah après il y en a qui. Bah, je suis une fille, je préfère qu'on me dise ton escrime est belle. Quoi.
Ouais, bah, non, mais je trouve que c'est joli à regarder, en tout cas c'est gracieux, etc. Mais tout en étant technique, on voit que, je sais pas, dans le geste, il y a des choses qui font presque comme une danse. Quoi. Donc,
bah, après, ouais, on répète tellement le même geste énormément de fois qu'au final, peut-être que c'est ça qui le rend beau, peut-être, mais parce qu'on essaie de le faire parfaitement. Quoi. Mais pas pour qu'il soit beau, pour qu'il marque, tout simplement.
C'est rigolo parce que tu disais, du coup, t'entraînes, tu fais comme des gammes. Mais
Des gammes.
Mais d'où vous entraînez pas en musique du tout.
Mais non. Bah, on fait un peu... Ah si, voilà, on fait de la Zumba. Une fois par semaine,
ah,
on fait
vrai.
De la Zumba. Ouais. Mais bah, pas juste pour faire de la danse, mais parce que ça amène... je crois que la première chose qui fait qu'on fait de la Zumba, c'est pour nous donner un peu de joie dans notre entraînement.
Oui.
Parce que la prof de Zumba nous fait beaucoup sourire, on danse, on rigole, et c'est un peu pour ça. Et aussi, c'est un travail de concentration. Après, il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées dans le travail de la Zumba, mais
en
échauffement du vendredi.
Voilà, exactement.
L'échauffement du vendredi, c'est Zumba, pour finir la semaine, arriver à nous remotiver un peu. Et...
c'est souvent comme ça. Ouais. Et du coup, le week-end, c'est repos ?
Le week-end, c'est repos ou compète.
D'accord, ok.
Ouais. Et ça veut dire... Je dis ça, mais ce week-end, j'ai entraînement parce qu'on prépare la compète dans deux semaines.
Non, donc... mais ça veut dire que finalement, t'as jamais de pause, t'as un entraînement tous les jours. Pratiquement.
J'ai au moins un entraînement tous les jours, à part si j'ai des sessions de vacances ou de repos. Par exemple, là, j'ai une compétition samedi, donc dimanche, lundi, j'étais au repos.
D'accord, ok. Donc, tu as quand même des pauses à des moments.
J'ai des pauses, ouais.
Et est-ce que, du coup, tu as tu vas peut-être trouver ça bête comme question, mais un régime alimentaire particulier ?
Alors,
t'es suivi à ce niveau-là ou...
J'ai pas de régime alimentaire particulier, mais je fais très attention à ce que je mange. Enfin, je reste une sportive de haut niveau, donc faire attention à mon corps et à mon sommeil, c'est la base pour pouvoir être performant. Et pouvoir juste durer sur les entraînements. Parce que se lever à 7h du matin pour aller s'entraîner 5h et y retourner l'après-midi, bah, c'est fatigant. Oui. Donc le sommeil et la nourriture sont indispensables. Je mange des gâteaux parce que j'aime les gâteaux, mais voilà, je ne vais pas me dire à un repas, bah, je vais manger des céréales. Quoi. Non,
ouais.
Il faut que je mange de la viande, des légumes tous les jours pour pouvoir tenir. Quoi.
Et ça veut dire sur le sommeil, ça veut dire que tu dors longtemps ou ça veut dire que tu as des techniques pour dormir, avoir vraiment un sommeil reposant par exemple ?
Bon, les techniques, non, j'en ai pas spécialement, mais j'essaie de me coucher tôt.
C'est ça, c'est plutôt dormir longtemps.
Et puis les siestes, je suis une adepte.
C'est vrai, j'adore ça. Ouais, mais c'est pas mal parce que du coup, ça saccade le... Enfin, en tout cas, tu as une partie vraiment reposante dans la journée, quoi.
Ouais, franchement, si je peux faire, surtout si j'ai un deuxième entraînement l'après-midi, si je peux faire une sieste, ça me sauve. Sauf si bah, là, je m'emballe et que je la fais beaucoup trop longtemps, du coup, je me mets des réveils parce que si on dort plus de,
ouais, si tu dors
plus
trop,
de 30 minutes,
ouais.
Le réveil, il est
après,
trop
c'est difficile.
Ouais. Faut vraiment dormir moins de 30 minutes.
Oui, en fait, t'es pas en sommeil profond, quoi. Juste,
non,
tu dors un
juste
peu.
Juste pour donner un coup de pêche.
Ok. Et est-ce que du coup, t'as le temps pour des loisirs ? Je sais pas, sortir au cinéma, lire un livre ?
Bah oui, je peux trouver le temps. Ouais. Non, ouais. Si le week-end en général, j'ai rien, donc c'est le moment. Bah là, j'ai acheté un chien avec mon mari, donc on a pris, on prend le temps de le. Voilà, faut aller promener, faut aller promener le chien, donc forcément c'est du loisir.
Ouais, ouais.
Mais si si, j'ai du temps même pour rentrer à Lyon voir mes parents de temps en temps. Bon, ça s'organise quoi. Mais même dans la semaine, si en plus sur les périodes où j'ai entraînement que le matin, enfin le matin qui se termine vers 14-15 heures quand même, je peux aller faire des choses l'après-midi si j'en ai envie, si je suis pas trop fatiguée, ouais.
Et du coup, avec ton mari, là, vous habitez tous les deux à Orléans, du coup ?
Tous les deux, on s'entraîne à Orléans, on vit à Orléans.
Ah bah c'est cool. Comme ça, ouais, vous êtes ensemble, parce que c'est pas forcément évident, deux sportifs de haut niveau, il aurait pu être ailleurs.
Ouais. On était tous les deux à l'INSEP avant et on est partis tous les deux à Orléans s'entraîner ensemble à Orléans.
Je vais paraître pour une inculte, mais du coup, il a quel niveau, lui ? Il est sportif, il est champion aussi ?
Ouais, ouais, c'est un champion. C'était un champion bien avant que
oui,
je rentre sur les pistes.
Plus âgé.
Ouais, ouais. Il était au jeu à Londres. Et où, pendant, entre 2010 et 2012, il a eu 3 médailles européennes en championnat d'Europe. Après, ça a été un peu compliqué après les Jeux de Londres. Il a eu du mal à retrouver le niveau qu'il avait. Du coup, il est passé à côté de Rio, mais depuis Rio, il a retrouvé un niveau excellent. Il est numéro 6 mondial. Et il était au jeu de Tokyo, ça s'est pas très bien passé, mais il est toujours 6 mondial, quoi. Il fait partie des meilleurs.
Bah ouais. Et alors, du coup, la retraite pour des escrimeurs, c'est quel âge ?
Ah, c'est ma question. Alors, avant, j'aurais dit 30 pour les filles, 35 pour les gars. Mais en fait, plus ça va et plus les personnes performantes continuent. Mon mari continue jusqu'à Paris. Donc il aura 39 ans. Bon, lui, c'est l'exception à la règle, mais on avait un Italien qui est vice-champion olympique par équipe, qui était champion olympique en 2004, et là, il a fait médaille d'argent avec son équipe. Bon, il a plus le niveau d'avant, mais au final, il est à 42 ans aujourd'hui, donc ça se fait. Et
là, ça
il
veut dire que t'as encore quand même... Voilà, ouais, là, t'as ouais, encore une longue carrière qui t'attend derrière.
C'est ça, la meilleure mondiale, enfin, en tout cas la deuxième, la russe, qui a fait deuxième à Londres, à Rio et à Tokyo, qui est je ne sais pas combien de fois championne du monde, elle a 36 ans aussi. Et elle a dit, bon, peut-être que je vais continuer à Paris, du coup, je vais voir. Elle a deux enfants aussi, donc tout est possible.
Oui, il y a ça aussi, je me posais cette question-là, parce que du coup, tu es une jeune mariée.
Voilà,
félicitations. Et donc, après, je ne sais pas, chacun a les projets, mais on imagine toujours, évidemment, qu'il y a des enfants, ou en tout cas des projets de bébés ensuite. Et donc, comment on fait, quand on est une jeune femme, comme ça, ambitieuse, avec une carrière sportive exceptionnelle, pour envisager, du coup, une grossesse ?
On calcule.
C'est ça, entre deux jeux.
C'est ça, il faut... Ouais. Il faut en général, en tout cas si on veut retourner sur les pistes après, il faut le faire vraiment juste après les Jeux, démarrer en tout cas, essayer d'avoir un enfant le plus tôt après les Jeux.
Et ça par contre c'est quelque chose qui est possible, c'est-à-dire que tu as une grossesse, derrière tu calcules l'accouchement peut-être 2-3 mois quand même derrière avec l'enfant et tu peux reprendre un entraînement sportif assez rapidement et retrouver un niveau...
Bah après, en fait, moi, je le vois un peu comme si un accouchement, ça devenait une blessure. On peut s'entraîner sur le début de la grossesse. En tout cas, l'escrime, on peut en faire au début de la grossesse jusqu'à une certaine date. Après, on peut, en fonction de comment se passe la grossesse, continuer à s'entraîner pour garder...
une forme physique.
Une forme physique. Et à la fin, après, en fonction de comment se passe la grossesse, il y a un ou plusieurs mois où on peut revenir, quoi.
Oui, mais t'as raison, c'est vrai. C'est, entre guillemets, comme une blessure. C'est-à-dire un moment où ton corps, en fait, il est occupé à autre chose et où tu peux pas t'entraîner ou avoir, en tout cas, les performances que t'as habituellement. Mais après, tu reprends. Ouais, t'as raison.
Voilà. Mais il y en a plein qui font ça. Bah, nous, l'Italienne, la Russe, a fait deux enfants après deux Olympiades et au final, elle regagne encore derrière.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Tout est possible. On a une championne olympique là, qui est en train de reprendre l'escrime, qui a fait un bébé pendant le Covid. Donc
puis du coup, tu auras peut-être un mari jeune retraité qui pourra
exactement
s'occuper des
retraités, mais peut-être entraîneur du coup. Donc, on va voir ce qui va se passer après. Mais oui, l'objectif, c'est de faire un enfant après Paris. Ouais.
Et du coup, tu envisages. Donc là, tu fais des études actuellement ? Tu fais des études de quoi du
coup ? Je fais des études de commerce. Je suis à l'EDEC.
Ok. Et du coup, tu envisages une carrière après le sport ? C'est que tu as des envies ou non ? Tu fais ça pour avoir un bagage.
Je fais ça pour avoir un bagage parce que je sais qu'après le sport, il n'y aura plus rien, donc il faudra bien que je travaille. J'aime bien le commerce, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard.
Pour l'instant. Et puis ça se trouve, il va y avoir des opportunités qui vont être totalement différentes.
Exactement.
Parce que j'imagine que tu fais des rencontres aussi
fantastiques.
On fait beaucoup
de rencontres avec le sport,
c'est ça.
Ouais, on va voir ce qui se passe dans 10 ans, quoi.
Parce que finalement, quand tu n'es plus compétitrice, comme tu dis, tu peux devenir entraîneur, tu peux faire plein d'autres choses, quoi.
Exactement. Ouais,
toujours autour du sport, finalement.
Ouais. Mais je pense que j'aimerais rester un peu dans le sport. Peut-être pas forcément à côté de l'escrime, Mais après, on va voir les opportunités aussi de mon mari, en fonction de où il peut entraîner. Ben, ça, s'il ouais. parle au bout du monde, sûrement que je vais le suivre.
Ouais, il peut se passer, ouais, c'est vrai, il peut se passer mille choses, quoi.
Ouais, c'est ça, on sait pas. Je sais pas ce qui va se passer dans 10 ans, vraiment pas.
Mais quand même, tu te dis, je vais quand même avoir un bagage. Voilà, je fais quand même des études à côté.
Ouais, bah, c'est un peu la culture que m'a inculqué mes parents depuis que je suis toute petite. En tout cas, jusqu'au bac, c'était vraiment le plus important, c'est d'abord les études. Après, à partir du bac, j'ai commencé à aller dans la direction des Jeux Olympiques, en équipe de France senior, tout ça. Donc, j'ai pu commencer à dire, bon, bah, je mets 50-50. Et maintenant que je fais vraiment... Vu que maintenant, c'est mon métier, on peut le dire, le sport prend plus de place. Mais les études sont toujours à côté, quoi.
Et tu disais, t'es dans une famille de sportifs. Donc, au final, ils aimaient le sport, tes parents. Enfin, ils t'ont aidé...
C'est ça, c'est des sportifs.
Voilà, c'était sportif. Mais du coup...
Enfin, des sportifs pas de haut niveau, mais ils aimaient le sport.
Oui, c'est ça, voilà. Ils aimaient le sport. Et du coup, ils t'ont suivi là-dedans, parce que j'imagine que c'est toute la famille est impliquée. Quand t'as une fille comme ça qui commence à faire carrière dans le sport de haut niveau, ça veut dire qu'il faut bouger, il faut l'emmener à des tas de compétitions.
Alors oui et non, bah, en fait, si, quand j'étais petite, forcément, ils devaient m'emmener à droite, à gauche. Ce qui a été le plus dur, c'est le moment où j'ai dû partir au pôle France Espoir à Orléans. J'avais 15 ans, du coup, c'était pour partir pour la seconde.
Et ouais, donc c'est-à-dire que tu pars toute la semaine, t'as 15 ans, même plusieurs... tu rentres pas forcément le week-end.
Bah, si j'avais des compétitions, je rentrais pas le week-end.
Ouais.
Donc, ouais, fille unique qui part de Lyon à
ah
Orléans
ouais, en plus,
toute
fille unique,
seule.
C'est sûr. Ah bah ouais, elle est 15
ans. Qui
prend
le train toute seule, ouais. C'était la panique un peu.
Ah, c'est sûr.
Non, c'était pas, en tout cas pour mes parents, c'était pas facile, mais on avait beaucoup parlé du sujet. Ils m'ont posé beaucoup de questions, savoir si j'étais prête et si j'en avais envie surtout. Mais j'avais des étoiles dans les yeux quand on m'a proposé ouais. d'aller à Orléans. Du coup, ils ont dit bon,
ils m'ont
posé toutes les questions entre guillemets négatives. Et ça, tu vas faire comment? C'est sûr que tu vas. Je disais non, ça va aller, ça va aller. Et du coup, ils m'ont dit bon, elle est prête, elle veut y aller, donc autant qu'elle fonce, quoi.
Ouais, c'est cool. Comme ça, t'as été suivie depuis le départ.
Et du coup, ils viennent chaque année à la Coupe du Monde d'Orléans me voir. Parce que bon, bah, les compétitions internationales, ou même en France, elles sont toujours très très loin. Donc, ils peuvent pas forcément me venir. Mais...
Et alors, du coup, sans se projeter à 10 ans, parce qu'effectivement, il peut t'arriver plein de choses et plein de surprises. Et j'espère que d'ici là, t'auras plein de médailles et plein de victoires. Mais du coup, c'est quoi tes prochains défis là? L'avenir de Manon, là, dans les prochains mois, c'est quoi?
Bah alors là, je suis en train de préparer la Coupe du Monde d'Orléans, la première depuis les Jeux. C'est le 13 novembre, du coup, entraînement. Et d'ici, en fait, dans l'année, normalement, on a 8 compétitions internationales qui sont entre novembre et juin. Et après, on a les championnats d'Europe, championnats du monde. Et c'est ça chaque année. Donc là, avec le Covid, je ne sais pas si on aura les 8 compétitions, mais en tout cas, on aura des championnats d'Europe et des championnats du monde. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver performante au mois de juin-juillet.
Championne du monde.
Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien.
J'y travaille. Merci Manon pour cet échange.
Merci à vous.
On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.